Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance.
Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Voici, comme chaque jour de cette semaine, convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire.
Je préfère Malthus à Marx, c'est bien évident. Marx ne s'est pas bien rendu compte d'ailleurs de la situation.
René Dumont en 1975.
Et jamais Marx dans ses écrits n'a prévu qu'un bon siècle après, on serait 4 fois plus nombreux, 4 milliards, et qu'on irait un jour à 12 milliards. Donc Marx a pu, impunément, parler de l'extrême abondance des biens pour tout le monde. Nous savons maintenant que le monde est une petite planète. Nous savons maintenant que cette petite planète a des ressources minérales, pétrolières, énergétiques et naturelles, en sol et en eau limitées, en phosphate limitées. Nous savons maintenant que le monde ne peut pas étendre sa production indéfiniment. Le Club de Rome nous a dit, si vous continuez le mouvement démographique actuel et si vous continuez l'augmentation de la croissance industrielle au rythme exponentiel actuel, vous allez à la catastrophe avant le milieu du siècle prochain.
Face aux ressources limitées de la terre et de l'air aujourd'hui, revient-on forcément à une approche malthusienne de l'économie ? Peut-on apprendre à vivre sans croître ? Comment peut-on être moins claustrophobe quand on croit avec l'innovation ? La théorie schumpeterienne de la croissance peut-elle ouvrir d'autres perspectives dans le cadre de la recherche d'une croissance durable ? L'économie peut-elle forcément générer de l'innovation verte sans que l'État intervienne ? Les enjeux environnementaux de notre nouveau siècle ramènent-ils la nécessité d'une politique industrielle en faveur de la croissance verte ? Philippe Aguillon, titulaire de la chaire Économie des institutions, de l'innovation et de la croissance au Collège de France, inscrit ses derniers cours dans le contexte l'an dernier de la COP21 avant de terminer sa série sur la question des vagues schumpeteriennes et du bonheur. Alors que se profile la première COP organisée sur le continent africain, la COP22 qui aura lieu cet automne au Maroc, comme à son habitude, notre économiste qui a enseigné dans les plus grandes universités internationales et qui a présenté ses travaux aux politiques dans le cadre des grands dossiers de réforme, confronte ce matin et fait débattre les modèles de décroissance et de croissance reposant sur l'innovation, une politique industrielle verte compatible avec la concurrence. Il nous présente aussi la question du phénomène de dépendance au passé. Ces enjeux liés à l'environnement posés, dans un deuxième temps, ils nous entraînent dans une sorte de grande conclusion autour des politiques de croissance, conclusion qui s'achèvera demain avec la question des vagues schumpeteriennes. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Philippe Aguillon consacré à l'innovation et l'environnement et la première partie de son cours sur les politiques de croissance en novembre 2015.
Je voudrais parler de croissance et d'environnement. Vous allez voir que pourquoi j'ai mis ça avec la population, parce qu'en fait, c'est à nouveau des raisonnements malthusiens qui viennent se mêler. La première question, c'est comment assurer une croissance durable malgré des ressources limitées. Moi, je me souviens que dans les années 60, on nous disait, mais écoutez, voilà, c'était encore l'époque où les modèles de croissance qu'on étudiait, c'était le modèle néoclassique de croissance par l'accumulation de capital. On n'étudiait pas beaucoup le modèle de Malthus, mais on étudiait le modèle de Solow dont je vous ai parlé au début. Et on peut se dire, mais votre truc, c'est très sympa, mais mettons que pour produire de la output, il faut pas seulement du capital que lui, vous pouvez reproduire, il vous faut quand même de la terre ou des ressources limitées, ou des ressources énergétiques qui, elles, sont en quantité limitée. Et à ce moment-là, comment vous pouvez avoir la croissance? Parce que ce qui va se passer, c'est que finalement, comme vous avez des quantités limitées, vous ne pouvez pas tout bouffer tout de suite, quoi. Donc, il vous faut faire très attention d'utiliser de moins en moins de ressources naturelles. Donc, à ce moment-là, on peut vous dire comment, avec, en utilisant de moins en moins de ressources naturelles, puisqu'il faut les économiser, puisque vous devez durer éternellement. Donc, supposons que vous dépendez d'une ressource naturelle toute l'histoire de l'humanité, que la ressource, elle est limitée, et vous devez faire une croissance durable. Comment vous faites ça? Donc au début, vous vous dites, il faut que j'économise de plus en plus en plus sur cette ressource limitée. Alors évidemment, si vous êtes dans un monde sans innovation, vous vous dites, le seul moyen de soutenir la croissance sans utiliser de plus en plus de cette ressource limitée, c'est d'avoir de plus en plus de capital, puisque la croissance est aussi basée sur l'accumulation de capital. Donc vous allez vous dire, il faut que j'accumule de plus en plus vite du capital pour contrebalancer le fait que j'utilise de moins en moins de ressources naturelles. Seulement, le capital, vous utilisez en capital, le capital, il vient de l'investissement. Et l'investissement, il vient du fait que vous avez épargné une partie de la production. Donc, pour pouvoir accumuler de plus en plus vite du capital, il faut produire de plus en plus pour que vous puissiez, en épargnant une fraction de cette produit, avoir ce capital qui augmente. Seulement, pour produire, vous devez utiliser la ressource naturelle. Et vous comprenez tout à fait, tout de suite, que si vous êtes dans un modèle où vous avez une ressource limitée, que votre seule façon de croître, c'est l'accumulation du capital, d'accord ? Et que vous n'avez pas d'innovation, vous êtes comme un serpent qui se mord la queue. Parce que la seule façon de contrebalancer le fait que vous utilisez de moins en moins de ressources naturelles, c'est d'avoir de plus en plus de capital à votre disposition. Mais la seule façon d'avoir de plus en plus de capital, c'est d'épargner toujours de plus en plus. Mais la seule façon d'épargner de plus en plus, c'est de produire de plus en plus. Mais pour produire de plus en plus, il vous faut utiliser plus la ressource naturelle, pas moins. Et donc, c'est pour ça que vous avez n'importe quel modèle d'accumulation, de croissance basée uniquement sur l'accumulation de capital avec une ressource naturelle limitée, elle vous dira qu'il n'y a pas de croissance durable possible. Donc déjà, quand moi j'étais étudié la croissance, c'était dans ces années-là, les gens vous disaient, écoutez mon coco, c'est très sympa, mais tu es dans un monde où il y a cette ressource limitée, il ne peut pas y avoir de croissance durable. Donc on était dans un monde où non seulement on expliquait un phénomène qui n'avait démarré qu'en 1820, mais on vous expliquait que dans 50 ans c'était terminé, pour cette raison-là que je viens de vous dire. Voilà, donc première question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Deuxième, il y a le réchauffement climatique. Donc la question qui se pose, c'est comment réconcilier croissance et lutte contre le réchauffement climatique? Parce qu'on sait qu'évidemment, la croissance a généré des émissions de CO2. Les émissions de CO2 ont généré des augmentations de température. Les augmentations de température, déjà, elles conduisent à des assèchements, elles conduisent à des déforestations, elles ont déjà beaucoup de conséquences négatives, elles conduisent à des dérèglements de climat qu'on expérimente nous-mêmes dans notre pays. Et puis, à terme, ça vous fait monter le niveau des mers et on sait que ça va donner des effets catastrophiques. Donc, à nouveau, là, c'est pas que vous avez des ressources limitées, vous avez un stock d'air pur limité. Et la question, c'est de savoir, est-ce que finalement, vous n'êtes pas dans la même logique que avec les ressources limitées. Et donc, si vous voulez, voyez que tout de suite, on se dit, on retourne vers Malthus, en gros. C'est-à-dire que, Malthus, vous pouvez me dire, mais votre modèle, il était un peu quand même un modèle un peu barjo, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, un modèle où vous avez juste des gens qui travaillent avec de la terre, on sait qu'il y a du capital qui s'accumule, donc on aurait pu dire, allons de Malthus vers le modèle néoclassique. Mais je dis, mais d'accord, allons vers le modèle néoclassique, mais mettez quand même une ressource limitée, vous êtes dans la logique malthusienne, parce que en l'absence d'innovation, il ne peut pas y avoir de croissance soutenable dans le long terme. Il va falloir qu'on apprenne à vivre sans croître, voilà. Et beaucoup de gens ont pensé de cette manière-là. Donc, j'ai vu beaucoup de gens très sérieux penser de cette façon-là. Et sur l'élément durable, c'était pareil. On utilisait un modèle néoclassique et avec un stock d'air pur limité. Et là, c'est un modèle un peu différent. On dit, si on génère des émissions de CO2 trop, la température augmente, ce qui crée des gros problèmes, ce qui baisse la productivité. Et ça tend à ralentir la croissance. Alors, peut-être qu'on n'arrive pas à une croissance zéro, mais ça a des effets qui en fait, portent atteinte à la croissance. Et donc, finalement, c'est pas certain qu'on puisse assurer une croissance soutenable. Donc, quand on est dans un monde sans innovation, où tout ce qu'on a, c'est d'accumulation du capital et des ressources limitées, on se dit, on retombe sur Malthus. Donc, le modèle de Malthus qui vous paraissait extrême, finalement, devient à nouveau un modèle raisonnable à partir du moment où on introduit des contraintes de ressources. Et donc, si vous voulez, en gros, sur croissance et climat, il y a eu deux types un peu de débats. D'abord, il y a Greenpeace. Greenpeace, c'est Malthus. Voilà. Donc, Greenpeace, c'est le raisonnement malthusien. C'est de dire, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on renonce à la croissance. Ça a été une parenthèse. mais on peut vivre bien, il peut y avoir de la croissance de choses qui ne consomment pas de l'énergie. Par exemple, la croissance dans l'amabilité, par exemple. Non, on a des gros progrès à faire, hein. Ça a bien amélioré quand même. Mais vous voyez, dans tout ce qui est des choses qui ne sont pas, ou de la croissance, dans d'autres dimensions qui rendent les gens plus heureux, voilà, et qui ne consomment pas de CO2, ou qui ne consomment pas de ressources naturelles. Voilà, donc un petit peu, on se met tout de suite dans une logique quand même assez malthusienne qui est de dire, voilà, on ne peut pas, et il faut éviter. Là, ce n'est pas la croissance de la population le problème c'est de dire, la croissance elle-même, elle peut pas être trop rapide, parce que si elle est trop rapide, on épuise les ressources limitées, et à partir du moment où elles sont épuisées, c'est la fin de l'humanité, on ne peut pas se permettre ça, et donc il faut empêcher, la croissance est un phénomène limité dans le temps. Mais par ailleurs, il y a eu autre chose, c'est qu'en gros, quand on est dans un modèle avec accumulation de capital, l'idée était de dire, ben voilà, il y a la pollution qui est embêtante, il ne faut pas polluer trop, il ne faut pas aller au-dessus de 3 degrés d'augmentation, parce qu'au-dessus de 3 degrés d'augmentation de la température, les choses deviennent catastrophiques. Il faut rester en dessous de 2 même. Là, on est à 3, il faut passer à 2. Un réchauffement de 2, c'est le maximum qu'on peut se permettre. Et là, l'idée, c'est de dire, eh bien, sur qui on fait porter le coup? En gros, c'était un monde dans lequel le monde de Stern et Nordhaus, c'est un monde néoclassique. C'est-à-dire, c'est un monde où la production se fait avec l'accumulation de capital, mais où la production produit du CO2, et le CO2 a un effet négatif sur la productivité, ou sur le voilà. Donc elle rétroagit négativement parce qu'elle crée toute série de dérèglements climatiques. On sait qu'il faut pas augmenter la température trop, donc il faut mettre des taxes carbone. Et en gros, et la question c'est de savoir sur qui on fait porter tout ça. Et en gros, le débat entre Stern et Nordhaus, c'est un débat qui porte sur le taux d'escompte, c'est-à-dire est-ce que je donne plus de poids aux générations présentes ou aux générations futures? Voilà. Et ça peut dire aussi un individu, est-ce qu'il met beaucoup d'importance sur ses périodes futures ou ses périodes passées? Est-ce que les gens sont patients ou impatients? Ça revient aux mêmes choses. Et donc, pour Nordhaus, il est dans un monde où quand même il faut donner du poids aux générations présentes. On ne peut pas faire porter tout le poids aux générations présentes. Donc Nordhaus, il vous dira plutôt, on comprend qu'il faut réduire la température, mais qu'il ne faut pas l'augmenter trop, mais on ne peut pas faire porter tout le poids aux générations actuelles, quoi. C'est pas juste, quoi. Stern vous dit, non, il faut agir tout de suite et y aller très fort. Et on peut faire porter le poids parce que, moi, dans mon monde à moi, on donne plus de poids aux générations futures. Et en gros, la bagarre, elle était beaucoup là-dessus. Est-ce qu'on fait porter plus de poids sur les générations présentes ou les générations futures? Et du coup, est-ce qu'il faut agir maintenant de manière très, très, très forte ou agir de manière plus graduelle? Greenpeace, ils vous disent, eux, c'est très simple, la croissance, c'est il faut éviter à tout prix, parce que la croissance, on est dans un monde malthusien, et on ne peut pas se permettre d'avoir de la croissance. La croissance, ce n'est pas possible. De toute façon, il va falloir s'arrêter. En gros, c'était ça l'état quand je me suis mis à travailler sur le climat. Et qu'est-ce que j'ai fait avec mes co-auteurs? C'est de dire, ben, je vais mettre la logique schumpeterienne dans le climat. Parce que, si vous voulez, il y a un élément qui est très important, c'est que, en fait, en introduisant l'innovation, vous dépassez ces débats. Pourquoi? Parce que l'innovation, elle vous permet de reculer les limites de ce qui est possible. Par exemple, vous avez une ressource limitée. Eh bien, l'innovation peut vous montrer comment vous pouvez en utiliser de moins en moins en moins en moins, mais d'avoir des services qui, eux, sont constants. Peut-être qu'on peut trouver une innovation qui fait que, même en consommant moins de moins en moins de façon... vous voyez qu'on fait croître la quantité vers zéro au cours du temps, grâce à l'innovation... On maintient le service rendu par la ressource naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais une autre chose que l'innovation peut faire, c'est de vous faire découvrir de nouvelles sources naturelles. D'accord? C'est ce qui se passe avec l'éolien, etc. Donc l'innovation, on est moins claustrophobe quand on croit dans l'innovation. Quand on est dans un monde où il n'y a pas d'innovation, c'est un monde qui se restreint toujours, toujours, et on sait qu'il faut partager de plus en plus. Mais quand on est innovant, eh bien on se dit non, je peux, grâce à l'innovation, reculer les limites du possible. D'accord? Et je peux, même si j'ai des quantités de pétrole et de charbon limitées, il ne faut pas en utiliser plus qu'un certain montant, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas durable la croissance, je peux, grâce à l'innovation, eh bien, reculer les limites du possible. D'accord? Et donc, bon, alors évidemment, la question c'est de savoir, est-ce que cette innovation-là va se produire toute seule? Donc on sait que l'innovation permet en théorie de surmonter les contraintes de ressources limitées et d'assurer une croissance durable. Le problème, c'est comment faire en sorte que l'innovation soit ce que j'appelle verte, c'est-à-dire qu'elle aille dans la direction que vous voulez. Et là, et c'est posé la question, c'est-à-dire qu'on a déplacé la question avec mon co-auteur Howitt et avec d'autres après, c'est-à-dire qu'on a dit non, mais théoriquement, Nous ne sommes pas dans un monde malthusien, on est dans un monde de l'innovation. Mais vous voyez en quoi c'est intéressant? C'est que quelque part, la théorie néoclassique, où la croissance était basée sur l'accumulation de capital, quand il y a des ressources limitées, ce n'est plus une théorie qui est là. Le débat devient entre les irréductibles, Malthus d'un côté, Schumpeterien de l'autre. Vous comprenez comment ça marche? Les autres, ça devient une petite parenthèse. Parce que dès que vous mettez des ressources naturelles, vous retombez soit chez Malthus s'il n'y a pas d'innovation, soit dans Schumpeter et le modèle schumpeterien si vous avez de l'innovation. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. C'est que le débat sur le climat ou le débat sur les ressources limitées, maintenant, le débat est clair. Il y a ceux qui croient dans la décroissance, c'est les Malthusiens. Et il y a ceux qui croient dans la croissance, c'est les Schumpeteriens. Et en gros, au milieu, les néoclassiques, ils ont disparu. Voilà. En gros, c'est ça. Et historiquement, c'est ça qui va se passer. Ils sont des gens adorables, mais ils vont. Le darwinisme va jouer contre le modèle néoclassique. Donc, si vous voulez, voilà. Et maintenant, la question qu'on se pose, nous, c'est de savoir, est-ce que l'innovation va aller forcément du côté que vous voulez? Est-ce que forcément, l'innovation va être verte? Est-ce que spontanément, l'économie va générer de l'innovation verte? Eh bien, en laisser faire, sans que l'État intervienne. Et là, c'est un autre débat qui est très intéressant. Parce que beaucoup de gens ont dit, comme maintenant, on devient une économie de l'innovation. Vous vous souvenez, je vous ai dit, une économie de l'innovation, il faut libéraliser le marché des produits, il faut un marché du travail plus dynamique, etc. Certains ont pris prétexte de ça pour dire, donc moins d'État. Donc l'État régalien. Donc l'État ne devrait faire law and order, et c'est tout. L'État devrait s'occuper de la police, de la justice, des gendarmes, et le reste, l'État disparaît. Et c'est là que je vais vous montrer que ce n'est pas juste comme raisonnement. Parce que là, dans ce cas-là, si l'État se retire, l'innovation ne va pas aller d'elle-même dans le vert. Et pourquoi elle ne va pas aller d'elle-même dans le vert? À cause du phénomène de dépendance par rapport au passé. En anglais, je dis « path dependence ». Je dépends du chemin que j'ai déjà suivi. Je ne sais pas comment traduire ça en français, je veux dire. Si quelqu'un a une bonne idée, je suis preneur. Hein. Donc, path dependence, c'est-à-dire c'est la dépendance par rapport au passé. Je dépends de ce que j'ai fait. Hein. C'était Sartre qui disait que la liberté de l'individu, c'est de faire quelque chose de ce qu'on a fait de lui. Mais c'est un petit peu ça. Mais là, c'est un peu l'idée, c'est plus que ça. Je suis bon dans quelque chose et donc je continue là où je suis bon. Oui, mettons que vous êtes un bon cuisinier et un mauvais danseur. D'accord? Moi, je vous avais vu, je suis un très bon danseur. Bon. Mais je suis pas un bon cuisinier. Eh bien, je vais vouloir innover en danse. Parce que c'est là que je vais être formidable. En cuisine, je suis nul. Je vais pas vouloir innover là où je suis pas bon. Parce que je vais m'améliorer sur ce que je fais déjà très mal. Je préfère m'améliorer sur ce que je fais déjà très bien. Les individus sont comme ça. Eh bien, il se trouve que les entreprises sont également comme ça. C'est-à-dire que les entreprises, typiquement, elles vont vouloir innover là où elles sont déjà bonnes. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont su faire jusqu'à maintenant? Des moteurs à combustion, pas des moteurs électriques tellement. Il y en a qui en font un petit peu, mais pas beaucoup. Ça se vend pas très bien pour le moment, les voitures électriques. Hein. D'accord? Donc, en fait, le problème, c'est qu'un individu ou une firme continue d'innover dans ce en quoi ils excellent déjà le plus. C'est-à-dire dans ce en quoi ils ont déjà innové beaucoup. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on laisse les firmes toutes seules, eh bien, livrées à elles-mêmes, eh bien, elles vont continuer à faire ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire d'innover pour avoir de meilleurs moteurs à combustion. Alors maintenant, vous pouvez dire, ça peut être pas mal parce que c'est peut-être des moteurs qui vont économiser et qui vont polluer moins quand même. Peut-être ça peut être ça, mais il y a le danger, ils vont pas aller vers l'électrique. Quoi. Et donc, ce que on a regardé avec des collaborateurs, c'est qu'on a essayé de montrer sur des études empiriques l'importance de ce phénomène de dépendance au passé. Vous comprenez tout de suite que si c'est vrai ce que je dis là, eh bien, à ce moment-là, ça a des implications de politique. C'est-à-dire que si vous savez que vous êtes dans un monde où les gens font surtout ce à quoi ils sont déjà bons, eh ben vous laissez l'économie livrée à elle-même, elle ne va pas aller vers le vert. Elle va continuer à innover là où ils sont des gens bien, c'est-à-dire les moteurs à combustion. Et donc, vous allez aller dans le mur. Vous voulez que l'innovation aille vers le vert. Et c'est pour ça qu'il faut un rôle de l'État qui soit pas seulement régalien, mais un rôle de l'État pour rediriger le changement technique. C'est-à-dire que l'État, grâce aux taxes carbone ou grâce à la subvention à la recherche verte, peut diriger le changement technique, pas juste la production, mais l'innovation vers le vert et la transfert de technologie vers le vert. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est pas un rôle régalien, c'est un rôle de politique industrielle, en fait. Et donc, c'est très intéressant, par ce biais-là, on réhabilite l'économie industrielle, même quand, comme moi, on croit beaucoup aux vertus de la concurrence, voyez, et aux vertus de la libéralisation. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire, parce que vous croyez dans la concurrence et dans des marchés dynamiques, etc., vous êtes forcément contre la politique industrielle. Non. Enfin, voilà un exemple où il faut de la politique industrielle intelligente, mais qui soit compatible avec la concurrence. D'accord ? Donc, si vous voulez, voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer maintenant, c'était de vous montrer que, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Je regarde une preuve empirique de la dépendance au passé. Je regardais les industries automobiles au niveau mondial. Eh bien, l'innovation peut être dirigée par des constructeurs automobiles, soit vers les moteurs à combustion, soit vers les moteurs électriques. Et ce qu'on peut montrer, ce qu'on montre empiriquement, c'est que les firmes qui ont davantage innové dans les moteurs à combustion dans le passé continuent à faire de même dans le futur. Alors, je passe en anglais, mais je dis ça en français, je vais traduire ça plus tard. C'est que, qu'est-ce que je fais? Je regarde, eh bien, j'ai des données sur les innovations par les entreprises automobiles dans le monde entier et sur une période, sur les 30 dernières années. Donc, je sais ce que chacun a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour chaque innovateur, je connais les innovations passées qu'ils ont faites. Donc, je connais leur histoire. Pour chaque invention, je connais le nom de la personne qui a breveté l'invention. Je peux connaître, et je connais son histoire. Je connais les brevets qu'il a fait avant. Et je sais si les brevets qu'il a fait avant, c'était pour des moteurs à combustion ou pour des moteurs électriques. Comme ça, je peux savoir s'il y a dépendance au passé. Vous voyez? Et, donc, toutes les données que j'ai, c'est beaucoup de pays. C'est 80 pays depuis 65. C'est énorme. Et ça fait beaucoup, beaucoup. Ça fait 4,5 millions de brevets. Vous voyez, entre 1965 et 2005, je regarde la période, 40 ans. Mais on a une durée plus longue, mais on se concentre sur 40 ans, ce qui est énorme. On regarde tous les brevets automobiles depuis... c'est des brevets automobiles qui sont enregistrés par l'Office de brevets européens. Voilà. Et c'est une base qui s'appelle PatStat. C'est merveilleux, les brevets. Vous savez, les brevets vous disent tellement de choses. C'est passionnant de lire un brevet. Et donc là, on peut classifier, je ne propose pas de lire ce qu'il y a là, mais en gros, on connaît la description, par exemple, des les innovations dans l'électrique, c'est « electric propulsion with power supplied within the vehicle ». Il y a toute une série d'innovations pour du moteur à combustion, les hybrides et les électriques. On peut mettre tout ce qui n'est pas de moteur à combustion dans ce qu'on appelle le propre. Je peux mettre que l'électrique dans le propre, c'est le même genre d'analyse. Mais voyez, je peux classifier les brevets. Et ils appartiennent à ces classes-là. Et je peux savoir, j'ai dit aujourd'hui, vous êtes par exemple dans le propre. Hier, vous avez innové dans quoi? Et aujourd'hui, vous voyez, donc je connais l'histoire des innovations. Et ça, c'est fascinant parce que les innovations vous dites beaucoup de choses. Et maintenant, je suis dans cette recherche où je regarde de près les données de brevets. Je regarde les données de brevets avec les données fiscales pour savoir l'influence de la fiscalité sur l'innovation. C'est très, très intéressant. Maintenant, je me restreins à la période 78-2005. Je vois qu'il y a 20 000 brevets dans les technologies sales. Il y a 6 000 et quelques brevets dans les technologies propres. Et il y a 3 500 breveteurs distincts, dont la plupart sont des entreprises, mais dont une partie sont des individus. Donc, en gros, je sais qui sont ces gens et leur histoire, d'accord ? Et voilà, en gros, ce que ça donne les brevets. Vous voyez, ça, c'est les brevets propres et c'est les brevets sales. Vous voyez que les brevets sales sont en avance sur les propres. Jusqu'à 2005, on brevette beaucoup plus dans le sale que dans le propre. Mais il y a quand même une augmentation des brevets propres. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ce que je voudrais, moi, c'est que cette courbe, elle croise celle-là. Je voudrais que celle-là, elle tombe et je veux que celle-là, elle monte. Vous voyez ? C'est ça qu'on veut. Ce serait bien si la COP21 pouvait faire ça. Faire tomber cette courbe-là et faire croître cette courbe-là. Vous voyez, ça serait bien, hein. Et donc, ce que je vais regarder, c'est que je vais regarder comment l'innovation, la direction d'innovation d'une firme dépend, eh bien, des prix et dépend de son histoire. Alors, je vais regarder, je ne vais pas aller loin et je vais vous donner le résultat. Et le résultat que vous obtenez, c'est le résultat suivant. C'est-à-dire de dire en gros, eh bien, la quantité de clean dépend positivement du prix du carbone. Vous voyez, c'est-à-dire que et donc notamment de la taxe carbone. Quand vous mettez une taxe carbone plus grande, eh bien, vous poussez les gens à innover, pas seulement à produire plus propre, mais à innover plus propre. Ça, c'est quand même très important. C'est-à-dire que le mécanisme des prix, ça marche. La taxe carbone, ça marche. Si vous faites une taxe carbone, non seulement la production va aller vers le propre, mais l'innovation va aller vers le propre. C'est important, ça. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Par contre, si vous augmentez le prix du carbone, l'innovation dans le sale va diminuer. Voyez ? Donc c'est sympa quand même. La taxe carbone, ça fonctionne. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Ce que j'ai ensuite, c'est la chose suivante. C'est de savoir dans quelle mesure votre entreprise, les chercheurs dans votre entreprise viennent de pays propres ou de pays qui polluent. S'ils viennent de pays propres, eh bien, il y a plus de chances qu'ils soient dans l'innovation propre. Vous voyez, il y a l'éducation dans les pays. Vous venez de pays qui sont spécialisés dans les moteurs à combustion, eh bien, vos chercheurs, ça détermine dans quelle direction vous allez. Donc c'est important de savoir si vos chercheurs sont de pays qui sont par tradition innovent propre ou innovent pas propre, d'accord ? Et alors l'autre truc qui est important, c'est ce que vous avez fait vous. Si vous avez un stock d'innovation passée qui est propre, vous voyez, vous êtes beaucoup plus de chances d'innover propre. Par contre, ça c'est pas significatif du tout. Si vous avez plus de brevets propres dans le passé, ça vous fait pas innover plus sale maintenant. Donc ça c'est la dépendance au passé. C'est-à-dire qu'en ayant innové plus propre avant, ça vous fait innover plus propre aujourd'hui. Alors évidemment, pour inverser la logique, j'utilise les prix, j'augmente le prix. Donc mettons quelqu'un d'avant, s'il n'y avait pas eu l'intervention par les prix, je commençais à innover sale, du coup je n'innovais pas propre maintenant, j'accumulais des brevets propres qui me faisaient de plus en plus innover sale. D'accord ? Et c'est qui casse ça, c'est les prix. Ou des subventions à l'innovation propre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est l'intervention de l'État. Et ça, c'est la réponse à donner. Parce qu'en fait, si vous voulez, quelque part, à travers cet exemple, il y a quelque chose que les ultralibéraux ne prennent pas en compte. Ils ont vu les ultralibéraux que, évidemment, libéraliser, ça peut avoir de bons aspects. Mais ce qu'ils ne prennent pas en compte quand ils veulent l'État régalien, c'est qu'il y a deux choses qu'ils ne prennent pas en compte. Il y a d'abord ce qu'on appelle des externalités technologiques. C'est-à-dire que, moi, si je fais une innovation, ça va affecter l'innovation de ceux qui sont autour de moi. Et ça va affecter l'innovation de mes enfants. Et ça va affecter mon innovation plus tard. Si je fais de l'innovation sale aujourd'hui, ça affecte l'innovation des gens autour de moi, qui sera aussi sale, plutôt, et l'innovation que moi, je ferai plus tard. Parce que je continuerai à faire ce que je fais déjà bien. Ça, c'est ce que les gens ne prennent pas en compte. C'est les externalités technologiques, vous voyez, c'est important. Et donc, c'est ça qui fait qu'il faut l'intervention. Ils ne prennent pas en compte non plus les contraintes de crédit, qui font que même si je voulais investir propre, peut-être que ça coûte cher et qu'il faut l'aide de l'État. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas prises en compte par les ultralibéraux. Vous voyez, donc, c'est intéressant parce qu'à travers cette question-là, je traite de la question, quel est le rôle de l'État ? Est-ce que l'État, alors une chose c'est de dire, est-ce que je veux un État qui assiste uniquement les gens ? Non, je veux un État qui aide les gens à être inventifs et à s'aider eux-mêmes. Donc ça, on est d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que l'État devient purement régalien ? La réponse est non, parce que par exemple, un État purement régalien ne pourrait pas empêcher la catastrophe environnementale. Vous voyez ? Il vous faut autre chose que du régalien. Le régalien, c'est bien, mais il faut autre chose que du régalien. Il faut investir dans l'éducation, dans la recherche, dans l'innovation verte, etc. Et ça, c'est pas du régalien, c'est en plus du régalien. Donc c'est un débat de fond que là, j'aborde. Hein. Voilà, je voulais, là, c'est les taxes carbone au lieu du prix de carbone. On peut simuler, on peut utiliser ces modèles pour simuler. Et on peut dire, voilà, ça c'est ce qui se passerait si je ne mets pas de taxe carbone. Donc vous voyez, au début, je vous ai représenté à nouveau l'innovation. J'ai représenté la courbe que j'avais là. Je vous la présente de manière simulée par le modèle. Hein. Et donc j'ai ça. Et je vois que là, l'innovation sale, elle est là. L'innovation propre, elle est là. Celle-là ne rattrapera pratiquement jamais. On sera tous morts jusqu'à ce que cette courbe rattrape. Donc ça, c'est s'il ne se passe rien. L'État régalien, on est mort. Hein, d'accord ? Enfin, peut-être pas nous, mais nos enfants. Ils n'ont pas une vie géniale. Hein, d'accord ? Et maintenant, tout d'un coup, je mets une augmentation du prix du fuel de 10%. Vous voyez, la courbe en bas, les courbes se rapprochent un petit peu. Pas en 2020, hein. Vous voyez, c'est plus, regardez en 2020. Hop. Et je mets une augmentation de 20%. Et je mets une augmentation de 40%. Et là, elles se rejoignent. Et vous voyez, en 2020, elles se sont rattrapées. Vous voyez, comme c'est sympa. Je mets une augmentation de 40% du prix du pétrole. Et là, les courbes se rattrapent en 2020. Alors maintenant, évidemment, vous pouvez dire, c'est de la folie de faire ça. Mais peut-être que je peux utiliser d'autres instruments. Je peux utiliser à la fois une augmentation du prix du pétrole et une subvention à l'innovation verte. Et à ce moment-là, j'ai moins besoin d'augmenter le prix du pétrole parce que je fais deux instruments. Oui, au lieu de vous faire très mal avec une, je vous fais un peu moins mal avec deux. Vous voyez ? Et donc, comme ça, je peux arriver à quelque chose. Et voilà. Et là, donc ça, c'est l'idée de l'intervention. Je veux vous dire, voilà, en gros, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça me dit, ce que je vous dis ? Eh bien, le changement technique peut être dirigé vers l'innovation verte, à travers notamment le mécanisme des prix, mais pas uniquement, avec aussi de l'innovation, de la subvention à l'innovation verte. Il y a le phénomène, pourquoi il faut diriger le changement technique ? Parce que vous avez le phénomène de dépendance au passé, et c'est-à-dire que les gens tendent à faire ce qu'ils faisaient déjà avant. Ça justifie l'intervention de l'État pour rediriger le changement technique. On a un État qui ne peut pas être seulement régalien. Ça, c'est la réponse à certains qui pensent qu'il faut l'État uniquement régalien. Je ne nomme personne. Les simulations suggèrent des hausses de taxes carbone très substantielles pour atteindre les objectifs climatiques, ce qui suggère d'utiliser un mix d'instruments, pas juste les prix, mais également des subventions à l'innovation et à la diffusion de technologies vertes. Donc ça, c'est ce qu'on sait pour le moment. Alors maintenant, moi, je vais vous raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires. C'est qu'en gros, je vais vous dire, eh bien, voilà, on est dans un monde comme celui-là. Donc je sais d'abord, récapitulons. Je vais vous raconter une histoire pendant à peu près 5 minutes. On est dans un monde où on sait quoi ? On sait que l'innovation, c'est notre chance de salut. C'est notre planche de salut. Sans l'innovation, on est condamné à pas de croissance, d'accord ? Donc l'innovation, il faut absolument. Seulement l'innovation, c'est comme un cheval fougueux. Il faut le diriger dans la bonne direction. Vous ne pouvez pas vous laisser le cheval vous amener où il veut, parce qu'il vous amène dans le mur. Surtout, pourquoi il vous amène dans le mur ? À cause de la path dependence. Donc il faut diriger le progrès technique, comme vous dirigez un cheval, d'accord ? Et c'est dans ce monde-là qu'on est. Et en gros, maintenant, on va reprendre les débats. Vous vous souvenez que je vous avais parlé du débat de Nordhaus. Je vous ai parlé de Nick Stern, Nordhaus. Et je vous ai parlé de Greenpeace et de Malthusiens. J'ai une réponse à leur donner. D'abord, aux Malthusiens, je leur dis, bah, écoutez-vous, chez vous, il n'y a pas d'innovation. Dans mon monde, il y en a. Ça, c'est ma réponse aux Malthusiens. On n'a pas besoin d'arrêter la croissance. Bon, il faut la faire intelligemment, par une innovation bien dirigée. Là, vous sortez de la logique malthusienne, comme vous en sortiez tout à l'heure de la trappe malthusienne. C'est pour ça que les deux vont ensemble, d'accord ? C'est l'innovation qui vous faisait sortir de la trappe malthusienne. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, Nordhaus, vous vous souvenez qu'il y avait ce débat où Nordhaus disait « mais il faut agir pas trop vite parce qu'il faut donner du poids aux générations futures » et Nick Stern disait « il faut agir maintenant parce qu'il faut donner du poids aux générations présentes ». Je donne un argument à Nick Stern. Pourquoi ? Parce que je dis, Nick Stern peut dire à Nordhaus, écoute, même si tes taux d'escompte à toi sont vrais, si les gens ont les niveaux d'impatience que tu dis, c'est-à-dire qu'ils sont très impatients, tu peux pas mettre tout le poids sur les générations futures, tu dois mettre du poids sur les générations présentes, j'ai une bonne raison de vouloir agir maintenant. Qu'est-ce qui se passe si j'agis pas maintenant ? Et c'est ce que j'appelle la parabole du dentiste. Qu'est-ce que c'est la parabole du dentiste ? C'est que si j'agis pas maintenant, eh bien, la carie va s'approfondir. On est dans un monde, souvenez-vous, on est dans un monde où initialement les gens sont meilleurs à la technologie sale qu'à la technologie propre. Et si c'est laissé comme ça, ils vont innover dans le sale. Ce qui veut dire que le gap entre le sale et le propre va augmenter. Et vous, quelle est la politique qui rétablit l'environnement ? C'est de bloquer l'innovation sur le sale et de forcer l'innovation sur le propre. Vous étiez bon comme danseur, je vous empêche d'innover en danse et je vous force à innover en cuisine. Mais pendant toute cette période-là, jusqu'à ce que vous soyez aussi bon cuisinier que danseur, la croissance va baisser. Vous comprenez bien ? Si je vous oblige à ne faire que ce que vous faites le moins bien, ça va être une période de croissance ralentie. Je veux pas qu'elle dure trop longtemps quand même. Si je n'agis pas maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez continuer d'innover sur le sale, le gap entre le sale et le propre va s'aggraver, et donc, c'est comme quand vous attendez pour aller chez le dentiste. Vous savez, quand vous attendez, ça fait plus mal. Maintenant plus, on a des anesthésies. Mais quand j'étais gamin, c'était pas génial. Et si on attendait pour aller chez le dentiste, il fallait qu'il reste avec la fraise plus longtemps. Et c'est la fraise, c'est la période de croissance faible. Vous voyez? C'est même la période d'agonie. Bon. D'accord? Et l'agonie doit durer plus longtemps. Et ben, c'est la même chose là. Nick Stern peut dire à Nordhaus, même avec tes taux d'escompte, si j'attends pour agir, le problème va s'empirer et il va falloir y aller beaucoup plus fort après pour pouvoir résoudre le problème. C'est pas une taxe à 40% qu'il faudra, c'est une taxe à 60% qu'il faudra. Voyez? Et ça va coûter très très cher. C'est une raison pour agir maintenant. Donc Nick Stern peut dire à Nordhaus, mais tes trucs des taux d'escompte, même avec ton taux d'escompte, je prends ton taux d'escompte, j'y crois pas, je le prends quand même. À cause de l'innovation endogène, au fait qu'ils en innovent, et ils innovent là où ils sont bons, sauf si on intervient, il faut intervenir tout de suite. La deuxième idée, c'est qu'il y a deux, il faut pas juste un instrument, il en faut plusieurs, parce qu'en fait, il y a deux genres d'externalités qu'on a. On a une externalité d'environnementale, c'est-à-dire que je produis sale, je pollue. Vous voyez, par exemple, moi, aujourd'hui, il y a de la pollution à Paris, je suis asthmatique, je respire pas, quoi, donc là, je la sens. L'externalité environnementale, je peux vous dire que je l'ai bien dégustée, et là, je suis même un peu endormi, j'ai un demi-zyrtec que j'ai pris aujourd'hui, parce que sinon, je pouvais pas respirer. Donc, c'était le choix entre pas respirer du tout ou marcher un peu ralenti. Donc, je peux mesurer l'environnemental très, très fort. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai une externalité environnementale, mais j'ai également une externalité technologique, puisque on sait qu'il y a la dépendance au passé. C'est une autre externalité. Comme j'en ai deux, j'ai besoin de deux instruments. Et les deux instruments, c'est la taxe carbone et la subvention à l'innovation verte. Et j'ai besoin des deux, pas l'une sans l'autre. D'accord ? Troisièmement, une intervention temporaire peut être suffisante, parce qu'une fois que les technologies propres rattrapent la technologie sale, comme les gens innovent là où ils sont le meilleur, ils vont d'eux-mêmes innover dans le propre. Si moi, vous étiez au début meilleur danseur que cuisinier, mais je vous force à améliorer en cuisinier, et vous devenez un génial cuisinier, à ce moment-là, je peux m'arrêter, parce que d'eux-mêmes, vous allez continuer à innover en cuisinier. Et c'est là que est la barrière entre l'État et le marché. C'est-à-dire que le marché joue son rôle aussi. Mais il faut savoir intelligemment le domestiquer pour jouer au mieux de la complémentarité entre l'État et le marché. D'accord ? Je voulais vous dire, pour terminer, le nord-sud des transitions énergétiques. On peut mettre tout ça en nord-sud. Vous négociez avec la Chine. Si je suis Hollande et je vais en Chine, qu'est-ce que je vais dire aux Chinois? Alors, je ne dis pas que j'aurais dit ça aujourd'hui, mais dans le débat avec la Chine, qu'est-ce qui se passe? Les Chinois, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que vous êtes bien gentils, les gens, vous, des pays développés. Mais vous, quand vous vous êtes développé, vous avez pollué à mort. Londres, dans les films, vous avez vu Londres, les films en noir et blanc sur Londres des années 50, on ne voit rien du tout. Hein, on voit Dr. Jekyll and Mr. Hyde et le reste, c'est du brouillard parce que c'est du charbon. Hein, d'accord? Ça, c'est Londres. Ça ressemble à Pékin aujourd'hui, quoi. Donc, vous, vous avez pollué comme des malades quand vous vous êtes industrialisé. Pourquoi vous nous niez à nous le droit de polluer? Nous aussi, on a le droit de se développer. Pourquoi nous, on ne peut pas et vous, vous pouviez? Ils ont raison, quelque part. D'accord? Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, une réponse possible, c'est de leur dire oui, mais à l'époque, nous, on n'avait pas des technologies vertes produites ailleurs et qu'on pouvait importer chez nous. Donc, il y a de l'éolien, mais il y a du... Bon, le nucléaire, il faut faire comme on le faire bien. En tout cas, il y a des technologies moins sales que le charbon. On peut discuter, hein, mais il y en a. Alors, à l'époque, nous ne les avions pas. Donc, vous pouvez les importer. Alors, à ce moment-là, ils vont vous dire, oui, mais il y a des droits de propriété sur l'innovation de ces technologies. Il faut payer vos innovateurs. Nous, on n'a pas les moyens, on est pauvres, on ne peut pas. Hein. Donc, comment on fait? Et donc là, il se pose un problème aux pays du Nord, c'est-à-dire de dire, je dois à la fois conserver l'incitation des innovateurs du Nord à innover dans le propre, mais je dois en même temps transférer des technologies vers le Sud. C'est pareil que les médicaments. Il y a la malaria. Vous savez qu'il faut diffuser les médicaments sur la malaria. Mais en même temps, les laboratoires, ils veulent faire des profits, parce que s'ils n'en font pas, ça ne paye pas leur recherche-développement. Comment vous gérez ce problème-là? Donc là, il y a un problème pour les pays du Nord. Les fonds souverains, par exemple, peuvent être une des solutions. Il y a d'autres idées. Mais c'est un vrai problème, d'accord? Maintenant, mettons que vous ayez résolu ce problème et vous dites, bon, allez, j'ai résolu ce problème, je vais vous diffuser les technologies vertes. Mais des pays du Sud ou d'autres pays continuent à polluer. Ils décident que si les pays du Nord vont vers le propre, ils vont faire que du sale. Eh bien, ils deviennent ce qu'on appelle des paradis pollueurs. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, à ce moment-là, il y a un instrument qui est la carbon tariff, c'est-à-dire vous mettez des barrières tarifaires de carbone. Mais maintenant, c'est très dangereux parce que, on peut abuser de ça. On peut toujours faire croire que les pays, on met des barrières douanières pour, c'est-à-dire on peut mettre des barrières douanières pour, en prétextant de ça, mais en fait les mettre pour d'autres raisons. Donc, théoriquement, on peut utiliser ça, l'arme du commerce, mais c'est pas une arme évidente à utiliser. La menace de barrières commerciales si les pays continuent à polluer beaucoup. Mais en tout cas, ces éléments font partie du débat. C'est-à-dire de dire en gros, eux vous disent, nous on a le droit de se développer, on leur dit, vous avez le droit, mais vous voyez quand même prendre des technologies vertes. Ils diront, oui, mais il y a les droits de propriété. On dit, écoutez, on est prêt à outrepasser et à vous donner. Et à ce moment-là, ils prennent. Alors, s'ils prennent, malgré ça, ils polluent. Nous, on peut leur dire, mais attendez, on vous donne la carotte et le bâton. La carotte, on vous donne des technologies vertes. Le bâton, si vous ne les utilisez pas et vous polluez, alors on peut renégocier les traités de libre-échange commercial. Mais vous voyez que voilà, en tout cas, le débat est ouvert, vous voyez. Et je ne sais pas comment il va être résolu, mais je pense qu'il y a un vrai débat Nord-Sud, ou pays pollueur, pays pas pollueur. Mais ceci dit, en Chine, il y a aussi beaucoup d'innovations dans le domaine du propre. Donc, je suis injuste à l'égard de la Chine, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses. Il y a d'autres pays qui sont qui jouent moins le jeu encore. Il y a enfin le dernier débat, qui est la transition énergétique. Ça, c'est un débat ouvert, et je ne vais pas rester trop de temps là-dessus. C'est-à-dire, en gros, on avait le charbon. On veut aller tous vers l'éolien. Mais l'éolien, ça coûte cher et ça marche pas toujours très très bien. Pour le moment, on peut pas stocker ce qui vient de l'éolien. Bon. L'Allemagne est un... Alors, je donnais un séminaire ici vendredi dernier et il y avait un Allemand qui m'a interrogé. Je me suis laissé un peu intimidé parce qu'en fait, je pense que le problème est toujours ouvert en Allemagne même. Les Allemands ont décidé qu'ils renonçaient au nucléaire et au gaz de schiste. En gros, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une situation où vous avez l'énergie sale, qui est le charbon. Vous avez l'énergie très propre, genre éolien, etc., hydraulique, éolien, etc. Et puis, entre les deux, vous avez des énergies intermédiaires que vous aimeriez un jour ne plus avoir à utiliser. Le nucléaire, le gaz de schiste. Bon, peut-être le gaz de schiste, jamais. Et la question, c'est de savoir est-ce que je dois autoriser la production, l'utilisation, ou même la recherche dans ces énergies intermédiaires. Il y a des gens qui disent non. Pas de recherche même sur le gaz de schiste et plus rien en nucléaire. Les Allemands ont décidé de mettre une croix sur le nucléaire pratiquement et le gaz de schiste. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le résultat des courses, c'est que pour le moment, ils augmentent quand même la consommation et l'émission de l'utilisation de charbon. Alors évidemment, on peut leur dire est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort. Et là, il y a un vrai débat. Et moi, je suis en train de travailler là-dessus et je suis en train de faire de la recherche là-dessus. Mais de toute façon, ma recherche ne va pas épuiser un débat, mais peut-être qu'elle contribuera au débat. En gros, il y a du pour et du contre. Le pour à utiliser de l'intermédiaire, c'est de dire tout de suite je vais réduire l'émission de charbon, ce qui est quand même bien, parce que je veux quand même éviter l'augmentation de 3 degrés de température. C'est plus facile si je vais déjà vers des sources intermédiaires. Le moins, c'est de dire non, il y a deux problèmes. c'est que d'abord, en faisant ça, je rends l'énergie globalement moins chère. Donc, ça peut augmenter la production totale. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais, pour un volume donné de production, je réduis l'émission de CO2. Mais si, en faisant ça, j'augmente la production totale, il se peut qu'à l'arrivée, j'ai augmenté quand même l'émission de CO2. Ça va pas dans ce cas-là. C'est ce que j'appelle un effet d'échelle. Et puis, il y a une autre question. C'est de dire, si j'utilise maintenant les énergies intermédiaires, c'est peut-être ça retarde le passage à l'éolien. Il se peut même que je sois dans une situation où j'aime tellement le nucléaire et le gaz de schiste que je ne veux plus en sortir. C'est-à-dire que des fois, d'être dans une situation infernale vous pousse à vouloir en sortir vraiment. Si je me mets dans une situation intermédiaire acceptable, peut-être que je ne vais jamais vouloir en sortir et aller vers l'éolien. Et tout le débat est là-dessus maintenant. Et ça, c'est le débat sur la transition énergétique. Et ce débat n'est pas tranché. Et la recherche est en train de se faire là-dessus. Et voilà, je voulais simplement vous dire, mais tout ça, ça tourne autour de l'innovation, c'est-à-dire de dire, est-ce que j'autorise la recherche, pas seulement la production, mais l'innovation dans l'intermédiaire ou pas dans l'intermédiaire. Et vous voyez comment, dès qu'on met le Schumpeterien, l'innovation, etc., on rend un débat beaucoup plus intéressant, il y a beaucoup plus de paramètres institutionnels notamment, qui interviennent dans les choix, et voilà. Mais vous voyez comment on a fait Malthus, Schumpeterien, le néoclassique qui est pris en tenaille entre le Schumpeterien et Malthus et qui ne résiste pas bien, et que finalement ça devient un débat, en fin de compte, entre les Malthusiens et les Schumpeteriens. Mais vous voyez comment on mène le débat, et c'est un débat aussi sur le rôle de l'État, c'est un débat sur la politique industrielle, et donc c'est un débat sur un peu toutes les questions fondamentales qu'on a étudiées jusqu'à maintenant.
Le Collège de France et France Culture vous présente Philippe Aguillon, théorie et politique de la croissance, aujourd'hui l'innovation et l'environnement et les politiques de croissance.
Je vais vous parler un peu de politique de croissance, mais ça va être un peu une révision de choses qu'on a déjà parlé dans les cours précédents. Donc, on vous demande comment stimuler la croissance de la productivité dans les pays avancés et ou dans des pays émergents ou dans des pays moins développés. Et c'est un peu de, voilà, vous êtes économiste à la Banque mondiale, au Fonds monétaire ou à la BERD. Et on vous pose ce genre de questions. Voilà. Et il y a des pays, il y a des responsables pays qui viennent vous demander. Et qu'est-ce que vous leur dites? Voilà. Il y a deux manières de croître. Une manière, c'est d'imiter la frontière. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'imitation. Ou une manière, c'est de dire j'étais A, je deviens gamma A, ou gamma est plus grand que 1. Donc je m'améliore sur moi-même. Et ça, c'est l'innovation frontière. Et on a vu un peu ce genre d'idée quand on a parlé de concurrence, on a parlé d'éducation, mais c'est une idée très générale, c'est de dire, voilà, eh bien, les pays émergents et les pays développés, c'est pas la même chose, parce qu'il y en a qui essentiellement croissent avec de l'imitation, et d'autres qui, au contraire, croissent avec de l'innovation. Et l'important, c'est que plus vous êtes près de la frontière, plus vous êtes près de la barre, ben moins ceci est important, et plus ceci est important. Les 30 Glorieuses, disons que c'était une époque pour nous où ça, c'était très important, et maintenant, c'est ça qui devient très important. Or, ce qui vous fait être performant en matière d'imitation n'est pas la même chose que ce qui vous fait être performant en matière d'innovation à la frontière. Nous l'avons vu avec la concurrence. On a vu la concurrence est particulièrement important pour la croissance par l'innovation à la frontière. On a vu que l'éducation supérieure, notamment au niveau doctoral, était particulièrement important pour l'éducation frontière. Donc, on va revoir ça. Et donc, on dit, voilà, et à partir de là, on peut déjà dire des choses, évidemment. Alors, si vous êtes donc, dans un pays avancé, vous vous dites, évidemment, il faut investir toujours dans l'éducation primaire secondaire. Ça, c'est un socle qui est indispensable partout. Et en outre, dans les pays développés, vous voulez investir plus dans l'éducation supérieure, certainement, et au niveau même doctoral. Voilà, vous voulez avoir des très bonnes universités et avoir des très bonnes courroies entre l'université et le monde réel. Voilà, et le monde de la production, je veux dire. L'autre chose, c'est la concurrence très importante. Et donc on a tout ça. Donc on avait vu ensemble que les firmes bleues, c'est les firmes qui sont proches de la frontière. Elles, pour elles, la concurrence les stimule, fait qu'elles veulent innover davantage pour échapper à la concurrence. Par contre, les firmes rouges, c'est les firmes qui sont en retard et pour elles, la concurrence peut avoir un effet de découragement. Mais on essaie que plus un pays est avancé, plus il a des firmes bleues par rapport aux firmes rouges. Et donc, c'est très important. Évidemment, c'est important également d'avoir des politiques qui permettent de réallouer des travailleurs qui travaillent dans les, ou des employés qui sont dans les firmes rouges, dans les firmes bleues. Et donc là, c'est là qu'il faut un marché du travail qui permettent eh bien, de se recycler, de se former tout au long de sa vie. Et donc ça, on a vu un petit peu, on a un petit peu discuté, mais le marché du travail, c'est très important. Donc par exemple, ça c'est un tableau qui vous montre simplement que dans des pays, ça c'est fait par des gens de l'OCDE, et c'est des gens qui vous montrent eh bien, que la croissance, eh bien, elle est d'autant plus affectée négativement par des EPL. EPL, c'est des réglementations restrictives sur le marché du travail. C'est tout ce qui rend, eh bien, c'est plus difficile de ce qui rend le travail moins mobile. Hein, donc, dans ces différentes choses qui font, ils ont une mesure qui mesure de dynamisme, une mesure inverse de dynamisme du marché du travail. Et plus cette mesure est élevée, plus la croissance est endommagée, particulièrement dans ce qu'ils appellent le higher tercile. Le higher tercile, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près de la frontière technologique. Donc, on voit vraiment à nouveau que, eh bien, des réglementations trop restrictives sur le marché du travail, ça nuit à la croissance par l'innovation dans des pays qui sont, ou dans des secteurs qui sont très, très proches de la frontière. Voilà. Ça, c'est, et on avait vu hier, la dernière fois, cette figure, ou une version de cette figure, qui, sur données américaines, mais on a la même chose sur données mondiales, qui vous dit que plus vous êtes développé, plus vous êtes proche de la frontière, plus c'est l'éducation supérieure, particulièrement au niveau recherche, qui est importante. Par contre, si vous êtes moins avancé, c'est important d'avoir éducation supérieure jusqu'au niveau premier, deuxième cycle. C'est moins important, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger d'avoir également de l'éducation au niveau doctoral. Donc ça, on avait vu un petit peu tous ces leviers de croissance. Celle-ci, ce qu'elle vous dit, c'est le système financier, c'est-à-dire c'est un quatrième levier. Donc on voit qu'il faut investir en éducation supérieure, il faut libéraliser le marché du travail, faut libéraliser le marché des biens, et le financement par action, eh bien ça, c'est cette figure-là. Et cette figure-là, elle vous dit, ça, c'est les pays qui se reposent davantage sur le financement bancaire, et on voit que ça, c'est leur taux de croissance selon qu'ils sont proches de la frontière ou loin de la frontière. Quand vous êtes loin de la frontière, c'est plutôt mieux d'avoir du financement bancaire que du financement par action. Mais quand vous êtes proche de la frontière technologique, c'est mieux d'avoir du financement par action que d'avoir du financement bancaire. Je ne dis pas que c'est l'un versus l'autre. Il faut du financement bancaire partout. Mais ce dont on se rend compte, c'est que, évidemment, plus vous êtes avec une croissance par l'innovation, plus c'est important d'avoir un financement par action qui est important. Et notamment, aux États-Unis, un des avantages qu'ils ont sur nous, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont tout un écosystème financier de l'innovation. Ils ont les fameux venture capitalistes, c'est-à-dire le capital risque. Vous démarrez une petite boîte, vous avez quelqu'un qui est un venture capitaliste, qui en général a été quelqu'un qui a créé une entreprise et qui a pu la revendre. Et c'est lui qui vous conseille en général et qui vous aide et qui vous contrôle un petit peu. Et après, à mesure que vous vous enrichissez, il lâche la bride et il vous donne l'indépendance. Mais ça, c'est un système qui marche très très bien. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était à la Silicon Valley. Il a créé une boîte qui s'appelait C-Cube. Il a fait fortune. Il a vendu sa boîte 3 milliards de dollars, je crois, ou je sais plus. Elle est allée sur Nasdaq et tout. Et il a fait ce qu'on appelle une offre publique d'achat. Il y a une offre, donc sa boîte a été rachetée. Et du coup, lui, il est devenu venture capitaliste. Capital risque, quoi. Il s'occupe maintenant d'autres boîtes qui, comme lui, essayent de croître. Et il y a toute cette philosophie de la... Donc, il y a ça. Il y a ce qu'on appelle le private equity plus généralement. Il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, il y a, par exemple, les fonds de pension ou les fonds ou les hedge funds ou les fonds mutuels. On joue un rôle très important dans l'innovation. Moi, j'ai fait des travaux qui ont montré que, et d'autres en ont fait également, que c'est ce qu'on appelle ces investisseurs institutionnels jouent un rôle très important pour financer l'innovation, notamment dans les grandes entreprises. Donc, donc il y a tout cet écosystème d'investisseurs, mais voyez, par les actions surtout. Et pourquoi? Il y a une bonne raison pour ça. Pourquoi vous voulez du financement par action quand vous êtes sur l'innovation frontière? Parce que l'innovation frontière, c'est très risqué. Typiquement, vous êtes à la frontière, donc c'est très risqué. Je veux amener un financier, je veux quelqu'un qui finance mon innovation. Ben, écoutez, il va dire, moi, vous n'avez pas de collatéral. En général, ces gens-là n'ont pas beaucoup de machines qu'ils peuvent utiliser comme collatéral, vous voyez, comme en gage. Donc, dit, vous avez, cher monsieur, vous êtes bien gentil, ou chère madame, vous avez de bonnes idées, mais vos machines, vous n'en avez pas beaucoup, vous avez vos idées, et vous me demandez de faire un financement très risqué. Donc, en général, ce que je vais faire, comme vous avez pas, je ne peux pas tellement gager ça sur des machines ou sur du capital physique, je vais demander du contrôle. Et puis, je vais demander également une grosse part du upside, comme on dit. C'est-à-dire que je ne veux pas juste avoir les, supporter les dettes et pas avoir les gains. Donc, je voudrais quand même avoir une part des... Donc, c'est pour ça que je veux être actionnaire. Vous voyez, je ne veux pas tellement être créditeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux avoir une... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que ces entreprises s'améliorent, eh bien, le contrôle est relâché. Il y a eu des études très intéressantes qui montrent qu'à mesure que l'entreprise peut gager des ressources, puisqu'elle accumule des ressources, elle peut les gager. Et du coup, eh bien, elle récupère du contrôle. Et puis, à un moment donné, il y a... on vend l'entreprise à d'autres actionnaires, etc. Mais c'est intéressant qu'il y a ce rôle du financement par action dans l'innovation. C'est moins important quand vous êtes une entreprise moins innovante, plus prévisible. Bah, le financement bancaire joue son rôle. De toute façon, les banques sont très importantes, mais l'importance relative des banques décroît évidemment à mesure que l'économie est davantage une économie d'innovation. Donc il y a tout un écosystème. Et nous, ça a pris un certain temps avant qu'on reconnaisse l'importance du capital risque. Avant qu'on reconnaisse l'importance des investisseurs institutionnels, on est encore loin de compte. On n'a pas du tout encore l'écosystème. Et même, on a le capital risque en France, par exemple, c'est pas du tout le même parcours qu'ont les venture capitalistes. C'est pas des gens comme mon copain qui est dans la Silicon Valley. En général, il sait pas. Enfin, il y en a, mais c'est pas ce genre d'animaux-là. Voilà. Donc, c'est tout un écosystème de l'entreprise. Et je rajouterai un cinquième. C'est la politique macroéconomique. J'étais à l'OCDE ce matin. Et je leur ai dit un petit peu ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous d'accord qu'il faut une politique macroéconomique plus proactive. Il faut une politique où, eh bien, dans les mauvaises périodes, effectivement, on rend la vie plus facile aux entreprises en baissant les taux d'intérêt, en faisant un peu de déficit pour simplement, si on veut faire un Small Business Act, c'est-à-dire qu'on garde des subventions aux entreprises innovantes constantes au cours du cycle. Et forcément, ça veut dire qu'on augmente un peu les déficits en récession. Mais ça, c'est important. Mais ces politiques plus proactives, elles vont de pair avec des réformes structurelles. C'est-à-dire qu'on peut montrer que si on ne fait pas un marché des produits dynamique, si on ne fait pas un marché du travail plus dynamique, eh bien, des politiques plus proactives ont moins d'effet. Et donc, dans ma leçon inaugurale, si vous êtes, vous souvenez, j'en ai parlé à nouveau après, où j'ai montré que l'effet de politiques macroéconomiques plus contracycliques sur la croissance est plus important quand vous avez évidemment fait ces réformes structurelles de libéraliser le marché des produits, le marché du travail. Quand je dis libéraliser, ça ne veut pas dire juste au sens libéral, c'est aussi au sens libéral, mais avec un marché, avec une formation professionnelle qui digne de ce nom que nous n'avons pas encore et qui est très importante pour faire ces réformes. Donc, si vous voulez, il y a un peu tous ces leviers. On commence à les connaître, on commence à les appréhender bien, et donc voilà. Regardons l'effet d'abord de la diffusion des TIC. Et on voit que si on ne regarde ni le marché du travail, ni le marché des biens, EPL, c'est les régulations sur le marché du travail, PMR, c'est les réglementations sur le marché des biens, d'accord ? Si on ne regarde aucun de tout ça, on regarde juste l'effet de la diffusion des TIC sur la productivité du travail, on voit qu'il y a sur la croissance de la productivité du travail, on voit qu'effectivement l'éthique c'est important. Donc si vous pouvez regarder d'une manière, on pourrait dire d'une manière très superficielle, mais je vois que les pays qui croissent plus vite, c'est des pays où la part de d'éthique dans la production est plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, mais on peut dire, mais alors du coup, ça vient d'éthique. Vous voyez, on peut se dire, ben voilà, si on met plus de diffusion de télécommunications, d'écologie, d'information et télécommunications, ça va croître plus vite. Mais en fait, si après on va plus loin et qu'on dit, mais non, regardons les réformes structurelles, regardons le EPL et le marché du bien, le marché du travail, et on voit qu'à ce moment-là, quand on regarde toutes ces réformes-là, et qu'on dit voilà, je vais réduire les réglementations sur le marché des biens, sur le marché du travail, d'accord ? Eh bien, en fait, à ce moment-là, le coefficient d'éthique devient non significatif. Vous voyez là, il y a plein d'étoiles, et là, les étoiles ont disparu. Les étoiles sont toutes là, vous voyez ? Parce qu'en fait, si vous voulez, la diffusion d'éthique, c'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est-à-dire que les pays qui font les réformes structurelles, elles diffusent davantage l'éthique. Et en même temps, d'avoir fait les réformes structurelles, ça leur donne la croissance. Mais l'éthique était juste un reflet. Vous voyez ce que je veux dire? C'était juste que ça reflétait le fait qu'ils avaient fait des choses utiles par elles-mêmes pour la croissance. Vous voyez? Donc c'est ça qui est intéressant. Je voudrais parler du bonheur. Donc, et c'est la chose suivante. Vous dire finalement, vous avez parlé de croissance du PIB par tête, et donc il y a toujours l'argument de dire, mais finalement, est-ce que c'est la croissance du PIB par tête qui est importante? Et pourquoi il ne faut pas s'occuper de d'autres aspects? Alors, il y a eu des gens qui ont dit, mais non, effectivement, d'abord, il y a le débat sur la décroissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, ben, finalement, la croissance, elle nous donne du chômage, elle nous donne un environnement qui se détériore, elle nous donne des inégalités qui augmentent. Pourquoi il faut la croissance? Donc ça, c'est un premier débat. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas le seul indicateur, le PIB par tête, il faut regarder aussi, eh bien, l'inégalité, par exemple, mesurée par le Gini ou par la différence entre le salaire moyen et le salaire médian. Et puis, et d'autres indicateurs. Il faut regarder l'environnement, etc. Et de dire, voilà, on ne doit pas regarder juste un indicateur, on regarder plusieurs. Donc, c'était Fitoussi et d'autres, Stiglitz, qui avait fait ce rapport pour le CDE, pour l'ex-président de la République, et qui a été ensuite utilisé par l'OCDE. Donc, si vous voulez, il y a un peu tout ce débat. Et de dire comment faire. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, donc c'est un travail joint donc avec Angus Deaton, c'est celui qui a eu le prix Nobel cette année d'économie, et qui a beaucoup réfléchi au bien-être. Et il y a des gens qui pensent que le bien-être, ça n'a rien à voir avec le PIB par tête. Et déjà, Angus Deaton a montré qu'en fait, c'est pas vrai, qu'il y a des mesures qu'on appelle life satisfaction. On peut demander aux gens, eh bien, si vous mettez dans une échelle entre 0 et 10, vous vous mettez à quel niveau en termes de vos perspectives, de vos aspirations, etc. Et mesure cette mesure de life satisfaction, de satisfaction à vivre, et il montre en fait qu'il y a un lien entre le PIB par tête et la satisfaction à vivre. Donc c'est intéressant. Donc déjà, il a dit, mais non, on peut pas complètement séparer. C'est vrai que le PIB par tête n'est pas une mesure exhaustive, mais c'est certainement une mesure qui n'a pas rien à voir avec. On voit bien d'ailleurs que les pays, on peut s'offrir quand même un certain nombre de choses. Quand on a un niveau de vie plus élevé, on peut s'offrir de meilleurs systèmes de santé, on s'offre des systèmes de transport plus efficaces, on peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire.
Collège de France, vous venez d'écouter Philippe Aguillon sur l'innovation et l'environnement et les politiques de croissance en novembre 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Philippe Aguillon. Et je vous invite à vous rendre au Collège de France ce mardi 4 octobre entre 14h et 16h pour la nouvelle série de cours de notre passionnant économiste. Philippe Aguillon a publié sa leçon inaugurale au Collège de France sous le titre « Repenser la croissance économique chez Fayard en 2016 » et avec Peter Howitt « L'économie de la croissance chez Economica en 2010 ». Rappelons aussi son livre avec Gilbert Sette et Eli Cohen « Changer de modèle, de nouvelles idées pour une nouvelle croissance » chez Odile Jacob en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons l'économiste Philippe Aguillon pour la suite et la conclusion de sa série de cours « Théorie et politique de la croissance ». Et dans quelques instants, nous retrouvons Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.